À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes ce vendredi, le logement des agents publics. Personne n'en parle vraiment. Mais lorsque l'on s'y penche sur une grande partie du territoire, dans un contexte de tension croissante sur le marché immobilier, infirmières, enseignants, assistants sociaux, policiers, employés de mairie, surveillants pénitentiaires, sont des agents publics. Ils œuvrent pour beaucoup à la continuité des services publics. Et leur accès au logement est un enjeu devenu majeur d'attractivité, de recrutement et de fidélisation pour la fonction publique. De manière plus globale, je cite, les 38 000 employeurs du secteur public manquent d'une structure semblable au groupe Action Logement qui permet dans le secteur privé de mutualiser l'effort des entreprises en faveur du logement des salariés. A encore rappelé David Amiel, l'ex-député de Paris, jusqu'en décembre 2025 et aujourd'hui ministre de la fonction publique, auteur de ce texte adopté en janvier au Palais Bourbon. Dans les territoires frontaliers, au sud et à l'est, les employeurs publics peinent par exemple à retenir certains professionnels dont la rémunération serait plus élevée de l'autre côté de la frontière. L'État dispose d'un contingent de 5% des programmes de logement social pour loger ces agents qui est néanmoins parfois sous-utilisé. Lorsqu'elles apportent leur garantie à un programme, les collectivités disposent quant à elles d'un contingent de 20% des attributions, qui n'est toutefois pas fléché vers les agents publics. Apprend-on au Sénat, lors de l'examen le lundi 30 mars, de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux biens des travailleurs des services publics, en présence notamment du ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun. Les employeurs publics peuvent donc acquérir des droits de réservation dans le parc social. Et la présidente LR et sénatrice des Alpes-Maritimes de la Commission des affaires économiques, Dominique Estrosi Sassone, qui l'a martelé dans un hémicycle presque vide le 30 mars, je cite, « avec des rémunérations généralement inférieures à celles du privé, les agents publics souffrent », ajoutant qu'un service public qui ne parvient pas à loger ses agents est un service public affaibli. Le texte prévoit donc d'étendre à l'ensemble des employeurs comme les collectivités, les hôpitaux ou les entreprises publiques des outils jusque-là réservés à l'État. Ces derniers pourront donc financer davantage de logements sociaux en contrepartie de droits de réservation accrus pouvant atteindre jusqu'à 50% de logements construits dans certains programmes. Le texte vise ainsi à instaurer la possibilité d'associer un logement à une fonction. Écoutons la sénatrice UDI du Pas-de-Calais, Amel Gacquer, rapporteure du texte, qui nous rappelle qu'en commission des affaires économiques, on y a apporté plusieurs modifications à l'heure actuelle.
Écoutez, moi je suis ravie de... Enfin, le texte a été voté aujourd'hui, cet après-midi, et c'est un texte qui est extrêmement bienvenu parce qu'il traite d'un sujet concret, d'un sujet essentiel, c'est justement le logement des travailleurs essentiel dont on a beaucoup parlé pendant la Covid et en fait la problématique qu'on a aujourd'hui c'est de pouvoir loger les agents publics à proximité de leur emploi, certains agents publics, notamment ceux qui ont besoin d'être proches parce que leurs horaires sont généralement très larges, ils ont des conditions de travail qui sont parfois difficiles et on sait que dans le service public, dans la fonction publique, on a parfois des soucis d'attractivité et le logement fait partie d'un élément essentiel pour pouvoir encore une fois être attractif et garantir la continuité du service public.
Quelles sont justement les avancées du texte au Sénat ?
Alors, ce qui est important de comprendre dans ce texte, c'est que ce n'est pas un texte qui met en place un nouveau dispositif. Ça met en place plusieurs outils à la main en fait des administrations publiques pour pouvoir proposer en fait du logement à leurs travailleurs du secteur public. Le dispositif qui a été le plus discuté, c'est la clause de fonction dans le logement social. Ça consiste à permettre en fait aux travailleurs dans le secteur public de disposer de logements sociaux, encore une fois, à proximité de leur lieu de travail. Donc ça, c'est le premier dispositif. Et cette clause de logement a été étendue en fait à toutes les administrations. Auparavant, les administrations de l'État pouvaient en bénéficier. Aujourd'hui, les administrations des collectivités, de la fonction bien sûr publique hospitalière, pénitentiaire également, peut bénéficier en tout cas de cette clause de fonction. Le deuxième dispositif que je peux évoquer, c'est la part de réservation des administrations dans les programmes qui le financent. Auparavant, c'était 10% pour les administrations d'État et on a rehaussé en tout cas cette possibilité de réserver à 50% Pourquoi ? Parce qu'on souhaitait aussi faire en sorte que le texte reste assez équilibré. Ce qu'on a aussi voté, ce qu'on a proposé dans le cadre de la commission, c'est une souplesse dans le plan local d'urbanisme pour permettre, en tout cas aux administrations qui ont du foncier, de pouvoir construire sur leur propre foncier du logement pour leurs propres agents publics.
Vous avez un exemple dans le Nord, par exemple
où... En fait, j'ai envie de parler de toutes les fonctions, par exemple, hospitalières. Moi, j'ai en tête notre hôpital aujourd'hui dans le département du Pas-de-Calais, notamment sur le Béthunois, qui a aujourd'hui une réserve foncière, qui est plutôt aujourd'hui pensée pour agrandir, en tout cas. Mais demain, s'il souhaite, en tout cas... Alors, nous, on n'est pas dans une zone aussi tendue que dans d'autres territoires. Mais ça laisse... On sait aujourd'hui que beaucoup d'administrations publiques, d'administrations, ont du foncier ne peuvent pas construire. Donc, cette disposition, elle permet véritablement de pouvoir déroger, d'avoir quelques exceptions en plus.
Justement, on a des chiffres sur ce potentiel de foncier
Je l'ai pas forcément en tête. Oui, bien sûr qu'on a des chiffres. Et ce sont des millions d'euros de mètres carrés, pardon, que je n'ai plus forcément en tête. Je l'ai eu dans le cadre de nos auditions, en effet.
Quels sont les autres défis que vous avez, sur lesquels vous avez beaucoup parlé cet après-midi?
Alors, ce que j'ai souhaité aussi, alors il y a un point qui est revenu aussi souvent dans les discussions, c'est dans les bancs en fait de l'Assemblée, c'était de dire attention, parce qu'à partir du moment où on a un lien entre l'emploi et le logement, est-ce qu'on ne précarise pas justement la situation de certains agents publics qui pourraient se dire moi je ne bouge plus, je ne quitte pas mon emploi parce que j'ai mon logement, et si demain je le quitte, je vais perdre mon logement. Donc moi, ce que j'ai souhaité, en tout cas ce qu'on a souhaité faire dans la commission, ce qu'on a défendu, c'est d'avoir une approche humaine, juste en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pose de fonction, le principe c'est ça, c'est quand je suis en fonction, je dispose d'un logement, mais quand je ne le suis plus, je dois lâcher mon logement. Mais on a souhaité...
Ce qui était plus qu'aujourd'hui ?
Ce qui est déjà le cas, mais par contre on a approfondi, ou en tout cas on a eu une gestion plus humaine des situations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple un agent qui tombe gravement malade dispose d'un temps plus long, un conjoint dont le mari était donc le fonctionnaire qui disposait du logement peut rester plus longtemps dans le logement, ce qui n'était pas le cas dans le texte initial. Donc on a vraiment aussi veiller à avoir un traitement au cas par cas et plus humain des situations qui sont liées en fait à ce lien logement-fonction.
Est-ce qu'il y a eu des oppositions au sein des débats ? Est-ce que vous avez senti cet après-midi plus de tension ou...
Alors, on peut pas parler de tension, c'est plutôt des visions différentes. Je viens de vous donner l'exemple de l'article sur lequel il y a eu le plus, d'opposition, en tout cas de discussion, c'est cette fameuse clause de fonction dans le logement social, parce qu'encore une fois, certains nous opposaient le fait qu'à partir du moment où on lit, on casse un peu la liberté, en tout cas, de certains agents publics de pouvoir quitter leur métier, leur fonction. Et donc, c'est justement, nous, ce qu'on défend, en tout cas moi, ce que j'ai porté et ce qui était porté initialement dans le texte, on ne parle pas de logement social à vie, on parle d'un logement social qui va être mis à disposition dans le cadre d'une fonction tenue par l'agent. Et c'est vraiment une vision différente, donc je ne peux pas dire que ce soit une tension, mais c'est une vision en fait différente. Nous, on estime, moi j'estime que ce texte, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'objectif initial, c'est quoi ? C'est de pouvoir loger travailleurs du service public à proximité de leur logement. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est la continuité du service public qui nous est cher dans notre pays.
Action Logement est toujours un acteur incontournable pour aider le personnel administratif à avoir un logement. Et pas que, ouais.
Du secteur privé.
Oui.
Du secteur privé. Action Logement, bien sûr, est un acteur majeur dans le secteur privé. D'ailleurs, il y a eu toute une discussion sur un Action Logement du secteur public qui pourrait être créé, justement, pour pouvoir travailler, en tout cas, sur la production de logements, notamment de logements sociaux. Il y avait un article que j'ai fait supprimer dans le cadre de la commission, dans lequel on demandait un rapport pour la création d'un Action Logement dans le secteur public. Et pourquoi j'ai supprimé ? Non pas parce que j'ai j'estime que je ne suis pas d'accord avec cette création-là. Au contraire, on est d'accord en fait avec la création d'un action logement secteur public. Mais pourquoi demander un rapport alors même que c'était une préconisation qui était déjà faite dans le rapport du député à l'époque. Il était député Amiel, qui est devenu donc maintenant ministre. Donc pourquoi recréer un rapport alors même qu'on sait qu'il y a une réflexion, une mission de préfiguration à mener sur ce sujet-là?
Donc au final, la création, elle est actée ou elle est...
Ben aujourd'hui, elle n'est pas actée. Ce qui était d'ailleurs dans ce texte de loi, c'était pas la création. C'était la proposition d'un rapport pour la création. D'accord. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on arrête. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut faire attention. Pourquoi pas des rapports quand on a des sujets vraiment naissants? Mais là, tout le monde est d'accord pour dire pourquoi pas engager une réflexion sur un action logement public. Donc, ben, dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de demander à nouveau un rapport. Autant faire travailler nos administrations sur cette éventuelle future action logement du secteur public.
Justement, le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, vous rejoint?
Bah écoutez, sur l'idée, oui. Alors, il n'a pas annoncé la création, mais sur l'idée, oui. A priori, oui.
Très bien. Madame Guéquer, merci.
Merci à vous.
À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.